much. Bonsoir à tous. Quand vous vous promenez dans la forêt, qu'entendez-vous ? Le chant des oiseaux, sûrement, un avion qui passe au-dessus, les voitures au loin, les aboiements des chiens qui s'y ébattent, parfois aussi une tronçonneuse, une souffleuse de feuilles, un VTT énervé, le bruit des feuilles mortes sous vos pas ou la pluie qui tombe sur le feuillage. Écoutez encore. Vous entendrez alors peut-être le son véritable de la forêt elle-même. Les arbres qui craquent, les branches qui se balancent, les ruisseaux qui chantent, le son de la terre qui accueille les racines. Mon invité de ce soir a entendu quelque chose de plus encore, et il a la gentillesse de nous le transmettre. Il faut dire qu'il n'était pas dans une forêt anodine, mais dans la forêt, comprenez, l'Amazonie. C'est la plus grande, mais aussi peut-être celle qui souffre le plus de la folie des hommes. Il était temps que quelqu'un vienne à son chevet pour l'écouter et relayer son propos. C'est maintenant chose faite dans un très beau livre qui vient de paraître, mais au fait, qu'a-t-elle exactement à nous dire, la forêt amazonienne ?
Entre nous soit dit, Mélanie Croubalian.
Je pense qu'elle a tout à nous apprendre parce qu'elle est d'une certaine manière l'ancêtre de tout ce qui est vivant sur Terre. Donc écouter la forêt amazonienne, c'est écouter toutes les forêts du monde, c'est écouter toute la végétation, tous les animaux, tout ce qui est vivant et tout ce qui a une sagesse ancestrale à laquelle on doit peut-être se reconnecter.
Bonsoir Laurent Hugli.
Bonsoir.
Vous êtes chaman, praticien bouddhiste. Vous avez fondé l'Outre-Monde, un centre de pratique chamanique à la Chaux-de-Fonds. Vous êtes aujourd'hui en duplex de Paris. Donc nous ne nous voyons pas, mais nous nous entendons. Vous entendez que c'est comme si vous étiez à côté de moi ou en face de moi. Vous venez de publier un livre, Mère, c'est le titre. M-E-R-E, comme une maman, sous-titre « L'enseignement spirituel de la forêt amazonienne ». Vous l'avez entendu vous parler. Comment ça s'est passé, justement, cet échange ?
D'une manière qui est peut-être assez extraordinaire, on va dire d'un point de vue extérieur, mais qui est assez classique d'un point de vue, je dirais, spirituel ou chamanique. Je me suis rendu au Pérou avec ma compagne Angéline, c'était en 2016. On avait envie de faire un break suite à une année 2015 qui avait été assez difficile à tout point de vue, on va dire. Également parce que ça avait été l'année des attentats en France, etc. et que ça nous avait beaucoup touché, beaucoup marqué. Donc l'envie de renouer avec vraiment la nature la plus profonde. Et Angéline connaissait déjà bien la forêt amazonienne. Elle a vécu au Pérou pendant plusieurs années. Donc, nous sommes partis aller rencontrer des chamans traditionnels. Et dans le cadre de ce qu'on appelle là-bas une diète, alors une diète, c'est le contexte rituel dans lequel les chamans accèdent en fait à la source ou à l'enseignement des esprits de la forêt. Et dans le cadre de cette diète, dès la première journée ou la première cérémonie de ce contexte-là, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Et qui s'est présentée comme étant la voix de la mère de toutes les mères, la forêt amazonienne, et qu'elle m'a simplement dit j'ai envie que quelqu'un écrive pour moi, en fait, et on va écrire un livre ensemble, si tu le veux bien. Et ça va être un cadeau qui est fait à mes enfants, les êtres humains, voilà, tout simplement.
Donc vous n'êtes qu'un passeur, en fait, Laurent Hugli. Vous n'avez rien écrit, tout seul.
Alors, ce n'est pas mon livre, je le répète à qui veut bien l'entendre, c'est le livre de la forêt. Et moi, j'ai juste fait le travail de scribe, en quelque sorte. Donc, je me suis vraiment entièrement laissé guider, accompagné pendant tout le processus d'écriture du livre par cette voix qui m'a accompagné et qui s'est ensuite atténuée alors que le livre commençait à être terminé. Oui.
Pourquoi vous ?
Alors, c'est une très bonne question que je me pose encore aujourd'hui. Alors, c'est important de comprendre je suis pas le seul à être, d'une certaine manière, le porte-parole de la forêt. En fait, toutes les personnes qui travaillent, que ce soit à un niveau scientifique, que ce soit écologique, que ce soit simplement les amoureux de la nature, toutes ces personnes, les artistes, toutes ces personnes-là qui œuvrent dans le sens du vivant, dans le sens de la nature, sont, d'une certaine manière, aussi en connexion avec cette énergie-là. Donc, je suis pas un cas unique, mais par contre, elle m'a effectivement d'une certaine manière choisi, alors ça me fait toujours drôle de dire ça, pour écrire ce livre, parce que j'en étais à un point sur mon parcours de vie, mon parcours spirituel également, où en fait, paradoxalement, j'avais envie de me retirer un petit peu de la vie, on va dire trépidante, et j'avais envie de faire une sorte de retour sur ce que j'ai vécu ces dernières années. Et quand je me suis retrouvé au Pérou, j'étais aussi d'une certaine manière complètement novice, en rapport en tout cas au chamanisme péruvien que je connais, on va dire théoriquement, j'ai lu des livres, etc. Mais j'étais un bleu, quoi. Je suis arrivé là-bas en toute innocence, et je pense qu'elle m'a un peu choisi aussi parce que je venais de l'extérieur en fait de ce contexte-là, quoi. Ouais.
Pour votre côté neutre finalement, un toucher.
Oui,
encore.
Mon côté neutre et un toucher, et aussi quand on vient de l'extérieur, on a toujours on voit des choses que les gens qui sont dedans ne voient pas forcément, quoi. C'est-à-dire qu'on a un regard extérieur, on est moins impliqué, on est moins, comment dire, pris à partie. Donc je venais avec une certaine légèreté, quoi. Mm-hmm. Je me souviens d'ailleurs de la toute première cérémonie, j'ai beaucoup ri, en fait. Je trouvais ça drôle, je me disais, c'est marrant, tiens, je vais écrire un livre, je vais devoir travailler, ça va peut-être prendre plusieurs années. Enfin, je me disais, mais tiens, ok, bon, on va faire ça. Mais j'avais pas, comment dire, le poids d'un passif en Amazonie. J'avais pas le poids d'un savoir qui peut être parfois aussi une sorte de carcan dans lequel on est pris. Là, j'arrivais vraiment complètement ouvert, quoi. Et cette ouverture m'a permis d'être en communication, je pense. Ouais.
Comment ils ont réagi les Indiens quand vous leur avez raconté justement ce que vous entendiez?
Alors, je l'ai dit à personne.
Petit cachotier.
Oui, alors ça, c'est petit cachotier. Alors, c'est un élément, je dirais, assez aussi traditionnel, en fait, de la diète traditionnelle. C'est que quand on est en diète, on parle très peu de ce qu'on vit. On garde ça pour soi, le temps que ça mature. Ça peut être quelques semaines, ça peut être plusieurs années, hein, je veux dire. Mais ça s'est ajouté, ce silence, on va dire, qui est un silence traditionnel, hein, s'est ajouté au fait que quand j'écris, j'en parle pas en général. C'est-à-dire que, à part ma compagne et peut-être 2-3 personnes autour de moi, je travaille en silence, et j'aime bien que le livre soit complètement, plus ou moins complètement abouti avant de simplement ne serait-ce que l'évoquer. Donc j'en ai pas parlé, mais par contre j'ai eu un rapport très fort avec les chamans que j'ai rencontrés là-bas, et notamment un chaman que je remercie à la fin du livre, qui a été pour moi qui en était un peu au même stade que moi, on va dire, dans sa pratique. Et j'ai vraiment senti que à travers cette personne-là, qui est un chaman Shipibo, le Shipibo, c'est donc une peuplade d'Amazonie, mais il y avait quelque chose qui passait, et que d'une certaine manière, il devinait aussi que j'étais en train de recevoir cet enseignement, et j'ai senti vraiment sa bienveillance, quoi, et son accompagnement, mais sans que ce soit explicité, sans que ce soit dit forcément, quoi.
Alors, pour les plus cartésiens d'entre nous, ça paraît complètement farfelu, hein, l'histoire que vous vous rendez dans la forêt amazonienne, vous débarquez de la Chaux-de-Fonds, vous entendez une vraie voix qui vous dit « Écris un livre pour moi », et c'est la voix de la forêt, et c'est bon, et vous écrivez le livre. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent « Non, mais c'est complètement... c'est de la folie. Vous aviez pas assez mangé ou fumé quelque chose. »
Oui, alors en plus, pendant la diète, on mange pas énormément, donc ça ne facilite pas forcément l'aspect, je dirais, cartésien. Bon, après, moi, ça fait longtemps que je suis sur ce chemin-là, et j'ai l'habitude, en fait, d'être à mi-chemin entre le monde, on va dire, qu'on peut considérer comme irrationnel, mais qui est le monde de cette spiritualité qui est la plus ancienne du monde, en fait. D'un côté, et de l'autre côté, les scientifiques, des interlocuteurs qui sont des gens vraiment très terre-à-terre et très posés. Donc ça me pose aucun problème de passer pour quelqu'un de farfelu.
Vous n'avez pas toujours été chaman, d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on va parler de ce parcours-là.
Oui, ça c'est venu petit à petit, par étapes. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, ça me pose aucun problème. Ce livre, on peut le voir comme quelque chose de fantaisiste, ou même comme une fiction, ou comme je le dis au début. Hein, personne n'est obligé de me croire sur parole. Ce qui est important, c'est pas le messager. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas Laurent Huglier. Laurent Huglier est pas très important. Ce qui est important, c'est le texte. Et le texte, on peut le voir aussi comme une méditation vraiment philosophique, poussé sur la nature de l'être humain, sur la nature des problèmes sur Terre, etc. Donc, on ne doit pas forcément s'intéresser au chamanisme. Enfin, je le vois vraiment comme un livre qui est écrit pour tout le monde. Hein. Mmh. Donc, on peut l'aborder de différentes manières. Mais oui, effectivement, le chamanisme, c'est une spiritualité qui est, qui est toujours assez difficile à expliquer rationnellement parce qu'elle est vraiment du domaine du ressenti et de, et il y a la vérité, si je puis dire, que qu'on ressent, elle est difficile à matérialiser dans la structure de pensée occidentale cartésienne, même si il y a comme beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à ça depuis très longtemps, et notamment les anthropologues, les ethnologues, les psychologues, etc. quoi.
On y reviendra à ça, Laurent Guilly, en parlant de votre parcours, justement. Mais j'aimerais qu'on commence cette émission après avoir discuté un peu autour de ce livre, Mère, qui est paru aux éditions Mama, qu'on se plonge dans un peu de douceur, la douceur en l'occurrence de signer John Lennon, Paul McCartney. Nous sommes en 1968, en tout cas c'est de là que le morceau date. Et puis ça nous parle d'oiseaux encore, Blackbird.
C'est ça.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Oiseau. Je ne sais pas de quelle forêt il vient, Laurent Huilly, vous qui vous êtes plongé dans la forêt amazonienne pendant quelques temps. Pour l'écouter, elle vous a parlé et vous en tirez un livre qui s'intitule « Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne ». Mère, M-E, accent grave, R-E, bien sûr, puisque c'est ainsi que l'appellent les Indiens d'Amazonie. C'est paru aux éditions Mama. Vous avez par ailleurs écrit plusieurs autres livres, et notamment « Les huit circuits de conscience », également aux éditions Mama, et puis « Le chaman et le psy », coécrit avec un psy, justement, qui relie justement les aspects plutôt rationnels, scientifiques et les aspects chamaniques que vous connaissez bien puisque vous êtes chaman vous-même. Justement, en parlant de ces deux aspects, je vais vous faire écouter une voix, Laurent Huilly. Écoutez, c'est en anglais, c'est assez court, on traduira juste après. C'est pas très important le contenu, mais il s'agit de savoir qui c'est.
Basically, shamans are not embracing a religion. Such as about incarnation or so on, they are embracing techniques, that's why they are shamans, but they can help people find out for themselves what they need to know. And one of those things is, what is my destiny after dying?
Avez-vous reconnu cette voix?
Alors oui, c'est l'anthropologue Michael Arner.
Exactement, c'était en 2011. Ouais. Il parlait, le titre de sa conférence était « The Transcendence of Time in Shamanic Practice », la transcendance du temps dans la pratique chamanique. Là, en gros, il disait que le chamanisme n'est pas une religion, mais ce sont des techniques qui permettent aux chamans d'aider les gens à savoir qu'est-ce que je vais devenir après ma mort. Finalement, c'est un peu ça la question c'est de ça. Base que nous nous posons tous, peut-être, Laurent Guilly. Alors vous le connaissez, Michael Arner?
Oui, ben j'enseigne depuis maintenant plus de 12 ans dans le cadre de sa fondation. Donc c'est un anthropologue qui a énormément contribué au retour du chamanisme, de la compréhension et de la pratique du chamanisme dans nos pays occidentaux. Et c'était vraiment un pionnier qui a commencé en fait son trajet également en Amazonie à la fin des années 50. Donc c'est vraiment pour moi, j'ai dit toujours que c'est un bienfaiteur de l'humanité, mais on ne le sait pas encore.
Parce en tout cas, il était anthropologue et là, petit à petit, fait connaissance avec le chamanisme lui aussi.
C'est ça, donc il s'est retrouvé dans cette situation un peu incongrue de l'anthropologue qui est dans une tribu et qui étudie les pratiques chamaniques ou la culture vue de l'extérieur, et les chamans lui ont proposé de pratiquer avec eux, quoi. Et c'est comme ça qu'a commencé en fait l'histoire de ce renouveau du chamanisme en Occident. Arner est retourné ensuite aux États-Unis. Il a même été motivé par un vieux chaman amazonien qui lui a dit écoute, maintenant il faut retourner dans ton pays parce que vous autres, les Blancs, vous avez besoin de cette spiritualité-là aussi. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement important, Michael Arner, et j'ai un respect infini pour lui. Et oui, donc les techniques, effectivement, lui, pour réintroduire ça en Occident, il disait souvent que le chamanisme, c'est une spiritualité de sceptique. C'est une très bonne spiritualité pour les Occidentaux, en fait, rationnels, parce que il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre, je veux dire, religieux, quoi, enfin, de livre sacré. Mm-hmm. Et en fait, tout découle de l'expérience, c'est-à-dire que il y a des techniques qu'on peut utiliser facilement, on peut utiliser un tambour, on peut chanter, on peut danser, enfin, je veux dire, c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est populaire à la base, quoi, c'est vraiment traditionnellement populaire. Et à partir de là, se crée, en fait, un certain rapport au monde, un certain rapport à la nature, un certain rapport au monde invisible aussi, mais qui n'est pas imposé dès le départ, c'est-à-dire qui est vraiment, qui se crée petit à petit au fur et à mesure des expériences. Donc c'est vraiment expérimental, et c'est ça la grande force de ce qu'a apporté Arner, et c'est aussi la grande force du chamanisme, et c'est pour cette raison que ce corpus de pratiques qui est préhistorique a survécu jusqu'à aujourd'hui et va continuer à survivre.
Seulement survécu, mais on a l'impression ces derniers temps surtout qu'il y a un engouement croissant pour le chamanisme. On ose en parler. C'est vrai qu'il y a quelques années, peut-être 10 ans, dire qu'on allait voir un chaman, par exemple, ça paraissait complètement bizarroïde, on n'osait pas trop le dire. Aujourd'hui, il y a eu le film aussi sur Corinne Sombrin, sur son histoire, dont j'ai oublié le titre, évidemment. Mais il y a
un
tout
monde
ça.
Plus grand, c'est
voilà,
ça, je crois.
Un monde plus grand, avec Cécile de France.
Ben oui, et en fait, oui, effectivement, c'est en train de changer très vite en ce moment. Alors, moi, je l'ai vu, cette évolution sur le terrain, parce que je suis sur le terrain depuis maintenant plus d'une décennie, quoi. Donc, effectivement, il y a de ça 12 ans, 15 ans, 20 ans, le chamanisme, c'était encore une affaire de spécialistes, on va dire. Il y avait d'un côté les études universitaires avec l'anthropologie et l'ethnologie, et de l'autre côté quelques personnes qui expérimentaient avec des tambours, etc., ou des gens qui allaient se former directement auprès des Amérindiens ou en Amérique du Sud, etc.
Comprenaient au mieux pour des néo-hippies, au pire pour des allumés complets.
C'est ça, il y a toujours ce préfixe néo qui était très péjoratif, les néo-chamans, les néo, le new age, etc., etc., quoi. Et en fait, maintenant, on est en train de passer à autre chose, et je pense que c'est lié à l'état de notre planète aussi, c'est-à-dire que, on a la technique, on a la technologie, on a la raison, on est vraiment très fort, je veux dire, pour développer toutes ces choses-là, ce qui fait notre grandeur aussi en tant qu'être humain. Mais il manque peut-être quelque chose, il manque peut-être un ingrédient qui est du domaine de l'invisible ou du sacré ou d'une spiritualité qui est simple et qui est pas dogmatique et qui n'est pas imposé et qui nous relie à la Terre, quoi. Parce que je pense que ce qui favorise d'une certaine manière cette émergence en ce moment du chamanisme, c'est vraiment le rapport à la Terre, quoi. La Terre va mal, donc quelles solutions trouver? Alors, il y a des solutions écologiques, etc., techniques, on va dire, mais l'aspect spirituel est rarement pris en compte, et cette émergence du chamanisme, c'est justement cette spiritualité-là qui est en train de... Donc oui, aujourd'hui, on peut plus facilement dire qu'on pratique du chamanisme, on en entend parler beaucoup, il y a des échanges qui se font avec toutes sortes de pratiques ou de domaines intellectuels. Donc il y a vraiment une ouverture qui est en train de se faire, et je la trouve très belle, cette ouverture, quoi, très positive.
Vous, Laurent Gly, votre première rencontre avec le chamanisme, c'était quand et comment?
En fait, il y a eu plusieurs points de départ sur mon chemin. Ma toute première rencontre, vraiment, je dirais, spontanée et un peu chaotique, ça a été à la fin des années 90. À l'époque, il y a un livre très important qui a été publié, c'est Le Serpent Cosmique de Jérémy Narby. Mm-hmm. Donc j'avais lu ce livre, qui est pour moi vraiment un des livres les plus fondamentaux sur la question du chamanisme et sur son rapport au monde, le rapport entre les traditions et le monde occidental, quoi. Et après avoir lu ce livre, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la spiritualité au sens large. Alors je me suis intéressé pas seulement au chamanisme à travers mes lectures, je me suis aussi intéressé au bouddhisme, au yoga, etc. Mais le point de départ, vraiment, je dirais, dans une culture traditionnelle et dans un contexte qui m'a chamboulé, c'est en l'an 2000. Je suis parti en mission humanitaire à la fin de mes études dans le sud du Mexique, au Chiapas. Et dans la jungle du Chiapas, j'ai vécu avec une peuplade. Et le fait d'avoir partagé la vie de ces gens pendant quelques temps, et le fait d'avoir vécu au quotidien avec eux, ça m'a complètement transformé. Quand je suis revenu ensuite en Occident, en Suisse, j'ai eu vraiment l'impression que c'était ça que je devais retrouver. C'est-à-dire, c'est ce rapport direct à la nature, ce rapport sacré à la nature. Alors, c'est d'autant plus paradoxal aussi parce que c'était dans le contexte d'une guerre civile. Mais je me suis retrouvé dans un village complètement isolé dans la jungle où, en fait, on sentait pas la présence du tout de la guerre autour de nous. Il y avait de la guerre partout autour de nous, mais dans ce village, c'était très calme parce que c'était tellement isolé, quoi. Et le fait de vivre avec ces gens, c'est ça. Pour moi, c'est ça mon point de départ, quoi.
Il y a eu peut-être un point de départ un peu plus ancien et peut-être plus diffus, qui était votre enfance. Racontez-nous un peu cette enfance et le rapport que vous aviez avec la nature, Laurent Guilly.
Ah oui, alors bon, là... C'est l'aspect, c'est la magie de l'enfance, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de passer une grande partie de mon enfance proche de la nature. Alors, étonnamment, je vivais toutes les premières années de ma vie, les 18 premières années de ma vie, je les ai vécues dans un immeuble, dans un quartier périphérique, c'était à Bienne. Pas loin de cet immeuble, il y avait une grande forêt, qui est la forêt de mon enfance. Et cette forêt, j'y allais très souvent. J'étais vraiment passionné de biologie, passionné par les animaux, etc. Donc je voulais en faire ma vie. J'avais vraiment l'étiquette biologiste collée sur le front quand j'étais enfant. Je m'intéressais qu'à ça. Je lisais des bouquins de biologie. J'étais complètement... Et en fait, dans le contexte de ma famille, on avait, la chance d'être en contact souvent avec la nature parce qu'on allait souvent en camping, pas très loin de Bienne, dans les contreforts du Jura. On allait chaque année en vacances. Donc, je passais mes vacances... dans les forêts jurassiennes, dans les plaines jurassiennes, dans cette nature-là, et aussi du côté de mon père, avec des origines agricoles, Donc là, le rapport à la terre, on allait faire les foins l'été, etc., etc. Donc oui, la nature a toujours été extrêmement importante pour moi, fondamentale, centrale, et je me souviens que je passais beaucoup de temps en solitaire dans la nature. Donc j'ai été initié assez tôt, à passer du temps en solitaire, à contempler, à aller ramasser des champignons, à aller ramasser des plantes médicinales, etc. Parce que j'ai des parents qui le font encore aujourd'hui, quoi, ramasser les champignons, ramasser les plantes médicinales, aller aux baies dans la forêt, etc. Donc dès tout petit, j'ai été baigné là-dedans, quoi.
En même temps, ce que vous me racontez, Laurent Guilly, c'est avec un aspect, le côté biologiste, donc le côté scientifique, et puis le côté terrien, agriculteur, avec aussi ce côté un peu technique. Le côté spirituel, il était présent aussi quand vous étiez petit, vous le sentiez ?
Je le sentais, je le sentais parce que je le sentais déjà personnellement quand j'étais en solitaire dans la nature, ce qui était vraiment une de mes activités, principales, quoi. J'ai vraiment passé beaucoup de temps seul, enfant, dans la nature, quoi. Donc, à faire de la contemplation, à passer des heures couché sur le dos, etc., à écouter. Enfin, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, c'était déjà les prémices de cette spiritualité-là, quoi, qui était présente. Mais quand on est enfant, on pense que tout le monde fait la même chose, on pense que c'est normal, quoi.
Vos premières trans chamaniques étaient inconscientes,
C'est ça. C'est le référentiel, de toute manière, est encore tellement intériorisé quand on est enfant qu'on se dit, c'est normal, tout le monde fait ça. Je me suis assez vite rendu compte quand même que qu'il n'y avait pas grand monde dans la forêt, que j'étais souvent seul, et je me disais, mais où sont les autres, quoi? Et ensuite, oui, du côté de ma mère aussi, il y a une spiritualité qui est très naturelle et très présente. et qui m'a beaucoup, je dirais, cette spiritualité qui est déjà présente familialement, elle m'a beaucoup soutenu aussi, tout simplement dès le moment où j'ai commencé à dire que, à la fin de mes études, chamboulé par l'expérience du Mexique, quand j'ai commencé à dire que je voulais peut-être devenir prof de yoga ou guérisseur, etc., j'ai été soutenu dans cette démarche-là, quoi. Et le fait d'être soutenu par ses parents, quoi, sur une démarche qui est quand même pas complètement une démarche ordinaire, bah, c'est un grand cadeau aussi, et je les remercierai éternellement pour ça, quoi.
Surtout dans les années 90, hein, c'était pas des années où on devenait comme ça prof, c'était moins courant qu'aujourd'hui.
Mais absolument, et il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, on n'avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y a pas encore Internet, enfin c'était vraiment une démarche, je me souviens très bien de la librairie de Bienne, en fait, où j'allais, il y en avait encore une qui était là, avec une section spiritualité, et on prenait ce qu'il y avait, quoi. Moi, mon premier bouquin de yoga, je ne l'ai pas trouvé sur Internet, je l'ai trouvé dans ma librairie, voilà, au centre-ville, et je me disais, waouh, mais ça a l'air super bien le yoga, je voyais les photos des types, là, complètement, c'est ça que je veux faire, et même chose, voilà, c'est ça, et même chose pour le chamanisme. On prenait vraiment ce qui était là, quoi. Donc, j'ai senti cet appel, je me suis senti soutenu vraiment à faire, en fait, ce que je voulais faire, quoi. Et c'est ça qui m'a amené à être où j'en suis aujourd'hui, quoi, tout simplement.
Nous allons écouter une chanson d'amour. C'est vous qui nous l'a proposée, Laurent Hughley. Love Me. C'est signé Elvis Presley.
Et oui.
Enfin, c'est lui qui la chante. Pourquoi cette chanson? C'est pas Love Me Tender, hein, c'est une autre.
Ah oui, à ne pas confondre. Hein. Oui, parce que j'adore Elvis. Bon, tout à l'heure, il y avait Paul McCartney, Elvis Presley. Pour moi, c'est vraiment de très grands chamans qui... Pourquoi ils ont eu tant de succès, les Beatles, Elvis? Pourquoi c'est vraiment les méga stars? C'est parce qu'en fait, ils soignent en chantant, ils soignent le cœur des gens, ils leur apportent de l'amour, ils leur apportent de l'espoir. Et je trouve que de temps en temps, se reconnecter à ces énergies-là, l'énergie de tout simplement d'une déclaration d'amour, bah, ça fait du bien, quoi. Donc moi, quand j'ai des périodes difficiles, j'écoute en général les Beatles et Elvis Presley, quoi.
Je suis sûr que les Beatles auraient été d'accord que vous leur disiez qu'ils sont chamans. Elvis, je sais pas. Pas sûr, mais il est plus
oui,
là.
Oui, d'ailleurs, il y avait un conflit, hein, entre, enfin, Elvis et les Beatles étaient des rivaux, quoi. Enfin, c'était surtout Elvis qui percevait les Beatles comme des rivaux, ben ces petits jeunes là qui débarquent d'Angleterre, etc. Mais je pense que il y a quelque chose de fondamental aussi en Occident. Les chamans, c'est les artistes, quoi. Mm-hmm. Et en fait, par rapport à la question de tout à l'heure, comment faire le lien entre la raison et ce monde invisible? Ben, en fait, les muses, quand on parle de muses dans la littérature occidentale ou dans l'art occidental, c'est ça, en fait. Hein, on entend des voix, on est inspiré, quoi. Et je trouve que ces artistes-là, le King, Elvis, étaient très inspirés.
Même si, à ma connaissance, il n'est jamais allé à Rishikesh, mais enfin, il chante parfaitement bien Love Me.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all. Darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal,
beg and steal.
Beg and steal,
he would beg.
beg and steal.
Just to feel.
Yes, just to feel.
Qui nous écoutez, vous êtes peut-être tout fondu sur votre canapé après avoir entendu la voix d'Elvis. En tout cas, c'est peut-être notre cas à nous, Laurent Guy, je ne sais pas vous.
Oh, mais Elvis, je me disais en l'écoutant, on parle souvent de la médecine hein, quand on est dans le contexte, mais quelle puissante médecine que la voix d'Elvis qui donne tout ce qu'il a dans chacune de ses chansons.
C'est pas moi qui l'ai
avec en même temps, c'est ça. Avec en même temps, il y a toujours du second degré chez Elvis, c'est-à-dire qu'il y a toujours un humour sous-jacent. En même temps, il donne tout ce qu'il a et en même temps, il sourit. Et on entend son sourire quand il chante. Enfin, j'adore. Quoi. C'est vraiment génial.
Une autre voix pour vous, cette fois beaucoup plus sérieuse, c'était en 2010.
Il existe dans les psychothérapies modernes occidentales des techniques qui utilisent les états modifiés de conscience. Or ça, c'est très proche du chamanisme puisque le chamanisme, c'est vraiment la science de l'utilisation des états modifiés de conscience. Donc déjà, il y a un terrain commun.
Oui. Est-ce qu'on précise aussi, là encore, hein, peut-être que beaucoup d'auditeurs savent exactement ce que ça recouvre, d'autres pas, qu'est-ce qu'on appelle un état modifié de conscience ?
Eh bien, c'est un état qui, alors je vais vous répondre simplement, qui est différent de l'état ordinaire de conscience.
Certes.
C'est-à-dire qu'en fait, la conscience retrouve des propriétés qu'on dit en physique quantique non locales. C'est-à-dire que la conscience, les études sur les états de mort imminente, par exemple ce qu'on appelle les NDE, montrent que la conscience est indépendante du corps et qu'elle même survit à la mort du corps. Et que cette conscience-là, qui opère à travers le cerveau, qui sert du cerveau et qui devient une conscience ordinaire quand elle est à travers le cerveau pour agir sur la matière, cette conscience-là, indépendante du cerveau, elle a des propriétés non locales, c'est-à-dire indépendante du temps, elle peut aller dans le futur, dans le passé ou de l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire par exemple des visions à distance, ce qu'on appelle le remote viewing.
C'était le psy, vous êtes le chaman, lui c'est le psy, Olivier Chambon, avec qui vous avez co-écrit ce livre Le chaman et le psy, paru également chez Mama Édition, et qui mettait en rapport, hein, comme là il le faisait au micro de Madeleine Caboche, le chamanisme et la psychiatrie.
Oui, absolument. Mais en fait, alors déjà j'adore Olivier Chambon, on a écrit... Je l'écoute et je souris, un peu comme en écoutant Elvis, parce que c'est vraiment un ami très proche et on a vécu une belle aventure ensemble en écrivant ce livre, Le Chaman et le Psy.
Comment vous êtes rencontrés?
En fait, on s'est rencontrés dans le cadre d'un stage. On était tous les deux apprentis, en fait, quoi. Donc on s'est complètement... Enfin, on s'est retrouvés à un repas assis face à face et... T'es qui, toi? Tu fais quoi? Ah ben moi, je suis psychiatre et je suis passionné par le chamanisme et les psychédéliques. Il me fait, toi, t'es qui? Ben moi, je suis Laurent et je suis passionné.
Je suis chaman par les mêmes choses.
Voilà,
par la psychanalyse.
C'est ça. Donc, on s'est bien retrouvés. Et ce qu'il dit là, c'est important. Je crois qu'il faut vraiment savoir que aux États-Unis, par exemple, qui sont très à l'avant-garde, en Russie également, ça fait très longtemps que la question des états modifiés de conscience ou de la nature de la conscience est étudiée du point de vue du chamanisme, quoi. Donc c'est vraiment il y a un pont là qui est fascinant, qui est en train de se raffermir et de devenir vraiment d'arriver à maturité, je dirais maintenant qu'on est au 21e siècle. C'est-à-dire que les chamans, c'est un petit peu des prototypes de personnes qui ont accès à des informations inédites, voilà, et on se demande comment est-ce qu'ils font. Et l'aspect, je dirais, ce qui intéresse les psychiatres, c'est de discerner aussi la différence qu'il y a entre être une personne qui a des problèmes mentaux, voilà, et une personne qui a des capacités chamaniques, quoi. Parce que c'est pas toujours forcément très très évident de faire la différence entre les deux. à tel point que les premiers textes qui ont été écrits sur les chamans, c'était par des anthropologues russes. Bon, il y a eu à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on pensait que les chamans étaient des hystériques. Il y avait même une maladie qui avait été inventée à l'époque, l'hystérie arctique, qui était en fait issue des observations des anthropologues en contexte boréal, c'est-à-dire chez les Inuits ou en Sibérie, en se disant, mais ces gens, ils sont complètement fous dans leur pratique. Mmh. Est-ce que c'est pas une nouvelle forme de folie qui serait liée au climat, qui serait liée à leur alimentation, etc. Donc on est parti vraiment d'un préjugé en Occident sur l'aspect, je dirais, pathologique en fait du chamanisme pour petit à petit, et ça a pris plus d'un siècle, hein, sortir de ce préjugé et prendre conscience du fait qu'il y a peut-être quelque chose qui peut aussi aider les gens à se guérir de choses profondes, quoi, dans ces traditions-là, quoi. Mmh. Ouais.
Vous, Laurent Gly, vous avez quand même suivi des études universitaires, je ne sais pas en quoi d'ailleurs. C'était la biologie.
Alors j'ai fait des études. Non, alors j'ai. La petite anecdote croustillante, j'ai fait 24 heures de biologie. Donc je suis allé en biologie, je m'étais inscrit en biologie à l'université de Neuchâtel. J'y suis allé. J'ai tenu 24 heures, quoi. Mmh. Le lendemain, je suis allé en lettres et j'ai étudié, en fait, j'ai fait philo, littérature française et histoire de l'art, quoi. Mmh. Voilà. Donc j'ai baigné dans le milieu, on va dire, dans ce milieu-là pendant quelques années. Ça m'a permis d'une certaine manière d'acquérir des outils de recherche, d'acquérir aussi une certaine manière de travailler. En fait, si j'arrive aujourd'hui à écrire des livres et à m'organiser, c'est aussi parce que je suis passé par ce contexte-là, quoi.
Mmh. Vous avez été journaliste aussi, hein. Ça, c'est aussi un métier de passeur.
Exactement, oui, oui. C'est voilà l'amour de ce qui est écrit, l'amour des mots, l'amour de aussi la communication. La communication, c'est pour moi pas juste un terme de marketing, quoi, évidemment. Mmh. C'est vraiment l'essence de ce qui nous relie, quoi, entre êtres humains, et aussi de ce qui nous relie à la nature, quoi. Donc il y a une communication, on va dire, qui est aussi du domaine du subtil ou du sensible, une communication avec ce qui nous entoure. Et c'est là que d'une certaine manière tout ce bagage, on va dire, très littéraire et très intellectuel m'a rapproché aussi, je l'ai utilisé, ce bagage, pour d'une certaine manière ennoblir la perception qu'on peut avoir du chamanisme dans nos pays, quoi.
Mmh. Donc au fond, vous avez toujours, quoi, un peu la même fonction, de nous faire passer des informations sur un monde auquel nous n'avons pas accès en tant que chaman. Vous y avez accès et nous pas.
Mais vous y avez accès. Hein.
Ouais, c'est ça, j'allais vous demander, est-ce qu'on pourrait tous être chaman, Laurent Gly?
Alors, pour répondre à cette question, je me base toujours sur ce qui se passe en fait dans les cultures traditionnelles. Les cultures traditionnelles, c'est vraiment le référentiel en fait dans tout ce qui est chamanisme. Et lorsqu'il y a des questions vraiment de fond, moi j'aime bien m'appuyer là-dessus parce que ça donne des exemples concrets. En fait, dans beaucoup de cultures traditionnelles, le contexte chamanique, si vous voulez, ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire le système de croyance, le fait de croire aux esprits, le rapport à la nature, il est partagé par tout le monde. C'est-à-dire, il est partagé par les chamans, évidemment, mais également par les gens dans le village, par les enfants, par les anciens, par tout le monde. Donc, quand il y a des cérémonies, tout le monde sait ce qui se passe. Donc, tout le monde participe, en fait, tout le monde chamanise d'une certaine manière, quoi. Voilà. Ensuite, les chamans, c'est vraiment eux qui, d'une certaine manière, tiennent les rituels ou qui savent comment gérer, en fait, ces différents passages, ces différents rituels, ces différentes cérémonies. Mais oui, tout le monde chamanise. Et en fait, dans notre culture occidentale, c'est à travers le rêve, la nuit, à travers l'art, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'imaginaire, à travers le cinéma aussi. Moi, je suis passionné de cinéma et c'est assez incroyable de voir depuis le film Matrix, mais même avant, hein, je dirais, comme dans la culture populaire, il y a le chamanisme, qui a Avatar aussi de James Cameron. Ce sont des films qui ont apporté le chamanisme dans l'imaginaire populaire pour nous montrer que, en fait, j'aime bien le terme, alors c'est un néologisme, hein, qui est utilisé parfois, c'est le monde imaginal, donc c'est une contraction de imaginaire et original, et c'est le monde des esprits d'un point de vue chamanique, mais on peut aussi simplement le voir comme un monde imaginaire dans lequel on va puiser de la force, dans lequel on va puiser des ressources, dans lequel on va puiser de la beauté, quoi. Donc c'est juste une question ensuite de, oui, effectivement, faire le lien entre ces différents concepts et faire comprendre que tout ça, c'est au final la même chose, quoi.
Et que peu importe que ce soit une vérité scientifique, enfin que ce soit prouvé ou pas, que ce soit un vrai monde ou un monde qu'on s'imagine dans notre tête, c'est le résultat qui compte au fond, Laurent Gly.
Exactement. Moi, l'aspect, il faut prouver l'aspect. Comment prouver que, comment sortir du doute. Alors moi, le doute, c'est un allié très très important. Moi, je doute très souvent aussi de ce que je fais, chamaniquement parlant aussi. Le doute me permet d'avancer, me permet d'approfondir, quoi. Mais effectivement, tous ces éléments, je dirais, qui font partie de notre vie intérieure, que sont l'imaginaire ou qu'on peut appeler le monde des esprits ou qu'on peut appeler simplement le fait de rêvasser, quoi, le fait de se laisser aller, mais ben ça participe à la même au même fondement, je dirais, de créativité qu'on a tous en nous, quoi. Et ensuite, c'est plutôt une question de concept, c'est-à-dire quel concept on met dessus. Dans les cultures traditionnelles, on va vraiment considérer le monde des esprits comme existant à 100%, il est tout aussi réel, voire même plus réel que le monde matériel. C'est un point de vue, on va dire, voilà, c'est un point de vue qui est le leur et qui est le mien aussi, à force de vivre dans ce milieu-là, quoi. Mais je comprends tout à fait que dans notre culture occidentale, on ne soit pas dans une acceptation aveugle et béate de ça, et qu'on se pose des questions de fond sur la nature de la réalité, sur qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un gros délire personnel, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant quelque chose de constructif. Et effectivement, pour en revenir à ce que vous avez dit là, c'est ça en fait, c'est les résultats. Si c'est constructif, si c'est positif, s'il y a de la guérison au bout du compte, ben c'est plutôt bon signe, quoi. Ouais.
On va écouter Féloche, c'est la proposition de Nathalie Schoenberg pour vous aujourd'hui, musicalement. Donc Nathalie Schoenberg est notre programmatrice musicale et elle vous propose Féloche qui chante Mythologie. Ça va bien avec le sujet.
Génial.
Ça m'a pris du temps pour arriver jusqu'à toi. Ça m'a pris du temps pour arriver jusqu'à toi. J'ai dû quitter la maison précipitamment. Papa avait dans l'idée de dévorer ses enfants sur une montagne perdue entre Thèbes et Troie. Un vieux vautour s'en est pris à mon foie. Ça m'a pris du temps pour arriver jusqu'à toi.
J'ai chanté sans fatigue aux quatre coins des villes. J'ai divagué mille heures dans le dédale des îles. Je volais quelques braises à la lumière du soir pour saluer ceux qui voyaient.
Un traversiel sous le soleil, rien ne dure, rien n'est éternel.
Je crus à la fable ancienne bien naïvement, où les rêves sont faits des chers. Sans te saluer, mon frère. Ils veulent que je parte. Et toi, que vas-tu faire?
Laisse-moi voir ton visage. Oh, je te donne ma vie. Si tu m'apprends ta danse, oh, je te donne mon pays.
C'est ce qu'on appelle un ovni en musique, Laurent Ugly. J'espère que ça vous a plu. C'était la voix de Rona Hartner avec Féloche, donc, qui chantait également et qui jouait de la mandoline, Mythologie. Tout va bien ?
J'ai adoré. En plus, le titre Mythologie, ça résume... je cherchais le mot sur lequel ça m'appuyait pour... d'une certaine manière, résumer cette question de « mais où est notre monde chamanique en Occident ?» Mythologie, tout est dit.
Ah oui, alors là, il y a des histoires pas possibles sur lesquelles se base notre société. Je vous emmène loin maintenant, écoutez.
Donc, dans la conception animiste des Indiens, le monde est enchanté. Tous les êtres qui peuplent l'univers, ce ne sont pas seulement les hommes, ce sont aussi les animaux, ce sont les arbres, les montagnes, les forêts, les phénomènes naturels. Tous ces éléments ont une intériorité qui est semblable. Ils ont une âme, ils ont une capacité de réfléchir, de penser et d'agir sur le monde. Donc dans la conception des Indiens, ça c'est vraiment quelque chose qui est largement qui est le commun dénominateur, si vous voulez, des sociétés amazoniennes. C'est cette notion qu'il n'y a pas de distinction entre nature et culture. Les êtres humains font partie d'un ensemble et ils considèrent que tous ces êtres qui peuplent l'univers, qui sont animés comme eux, vivent comme eux en société. Les pécaris, on ne les comprend pas, on ne comprend pas leur langage, mais on les voit et entre eux, ils se comportent comme des humains. De même pour les perroquets. Et le chaman, dans cette conception du monde, a un rôle particulier. C'est-à-dire que c'est la personne qui a, à travers une initiation, acquis le moyen de retourner à... recouvrer, si vous voulez, des capacités qu'avaient les hommes au début de la création, qui étaient de pouvoir changer d'apparence, changer de forme et communiquer entre les espèces. Donc la mythologie, qui est un des piliers des cultures amazoniennes, montre dans toutes les sociétés que dans un état primordial, si vous voulez, tous ces êtres qui peuplent l'univers pouvaient changer d'apparence et communiquer entre eux.
C'était la voix de Boris Vastio, directeur du musée d'ethnographie de Genève en 2016 à l'occasion de l'exposition « Le chaman et l'esprit de la forêt », donc exposition autour de l'Amazonie. Je ne sais pas si vous avez vu cette exposition, Laurent Ugly.
Je l'ai vue à Nantes, dans l'ouest de la France.
Oui, elle a bougé.
Parce que Angéline, ma compagne, est originaire de cette région-là, donc près de Guérande, là, et en fait, Nantes, c'est un peu notre point d'attache. J'y ai vécu même à Nantes. Mm-hmm. Et oui, alors par hasard, un jour, nous sommes arrivés.
Ah oui.
L'exposition était là et j'ai trouvé ça assez incroyable, quoi. Mm-hmm. Une magnifique exposition.
Très belle.
Oui, des objets incroyables, vraiment incroyables.
Ouais. Que pensez-vous de ce que disait Boris Vastio à l'instant ?
Ben, je pense que c'est ça. Mm-hmm. Je pense que. J'y avais vraiment le mot, je l'écoutais, il y a le mot famille, en fait, qui me venait à l'esprit. C'est-à-dire que le vivant est une immense famille, et d'une certaine manière, les chamans, c'est eux qui réconcilient la famille, quoi. C'est-à-dire, c'est eux qui font le lien entre l'animal, l'humain, etc. Et tout est, il y a cette perception que j'aime beaucoup, qui est horizontale. C'est-à-dire que c'est pas une perception hiérarchisée, verticale du vivant, dans laquelle l'homme serait au sommet, ensuite il y aurait différentes espèces.
Oui,
etc.
Là, il parlait des perroquets, hein, qui eux aussi
exactement.
Comprennent.
Donc tout le monde est au même niveau. Ouais, c'est ça, tout le monde est au même niveau. Et de cette perspective horizontale et familiale, en fait, hein, tout le monde, tout est relié. Bah, en fait, il y a un immense respect qui se développe. Les cultures traditionnelles naissent dans ce respect et nous, en fait, en Occident, on doit plutôt le réapprendre, ce respect. C'est-à-dire réapprendre à considérer qu'en fait, on est dans un monde où on collabore avec le vivant, où on est en interaction, en synergie, etc. Et on n'est pas là pour seulement exploiter et profiter au sens économique du terme de la nature, quoi.
Mmh, on peut en profiter autrement,
le rôle des chamans... Pardon, je m'excuse.
On peut en profiter autrement.
On peut en profiter autrement, on peut simplement considérer que tout ce qui est vivant a le droit à sa place dans l'existence aussi et que l'être humain n'a pas à être un rouleau compresseur qui va en fait dévaster ce qui reste encore de nature sauvage. Quoi.
Alors là, on parle évidemment d'Amazonie, puisque c'est elle qui vous inspire ce livre que vous venez de sortir aux éditions Mama, Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Mais on disait aussi au début de l'émission que vous et d'autres avez ramené le chamanisme ici en Europe. Quand on parle de Suisse et de chamanisme, c'est quelque chose qui existe de tout temps en Suisse ou qui est importé ?
Je pense que la Suisse a la chance d'une certaine manière, d'avoir gardé des racines traditionnelles très profondes, quoi. Même si elles sont pas forcément visibles au quotidien dans le monde moderne, quoi. Mais je sais que il y a pas si longtemps de ça encore, dans le Lechental, il y avait encore des anthropologues qui allaient, qui allaient observer, en fait, les chamans du coin, quoi. Et dans les régions un peu périphériques, qui sont, comment dire, encore pleines de nature, comme dans le Jura ou dans les Alpes, en Valais, etc., il y a beaucoup de guérisseurs, il y a beaucoup de rebouteux. Et tout ça, en fait, moi, je les vois vraiment comme ce que sont devenus les chamans dans nos cultures, quoi.
Quel que soit leur nom, sorcières, rebouteux, guérisseurs, secrets.
Mais absolument. Mmh. C'est cette adaptabilité, c'est cette plasticité du chamanisme qui est présent à toutes les époques de l'histoire humaine et qui est présent dans toutes les cultures, mais qui trouve à chaque fois sa forme, en fait, sa forme adaptée, quoi. Et c'est clair que par rapport, je dirais, à l'histoire de nos pays judéo-chrétiens, il y a eu la chasse aux sorcières, enfin, il y a eu une éradication des chamans, quoi. Une éradication qui a encore lieu dans certains pays du monde, hein. Ça, c'est pas terminé. Donc, il y a une espèce de comment dire, on a toujours, enfin, ce que j'appelle l'empire, c'est-à-dire le pouvoir hiérarchique, patriarcal, a toujours voulu, en fait, se débarrasser des chamans, quoi. Mais ils ont toujours trouvé une manière de continuer à faire leur travail quand même, sous d'autres étiquettes, ou d'une manière un peu plus secrète, comme le secret, comme on dit dans le Jura, quoi. C'est une manière secrète de chamaniser, d'une certaine manière. On peut le voir comme ça, hein. Pour moi, il y a très peu de différence, en fait, quoi.
Avec ce très joli néologisme, ce très joli verbe que vous nous répétez là depuis tout à l'heure, Laurent Gly, chamaniser. C'est très joli, ça. J'ai une toute dernière question pour vous, assez brève, parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous parlez de la mère dans votre livre, c'est la forêt amazonienne. Et le père, alors, il est où?
Ah, le père, c'est une bonne question. Alors, je... moi, je vais pas, comment dire, trop empiéter sur mon travail d'écrivain actuellement. Je suis un petit peu en train de travailler là-dessus.
Sur le père.
Mais le père, c'est-à-dire sur maintenant qu'on a le livre de la forêt, c'est clair qu'il y a la question de savoir maintenant où est la force du masculin dans tout ça, parce que ce mère, c'est vraiment un livre pour, comment dire, d'une certaine manière soutenir la réémergence de la noblesse d'âme au sens féminin du terme, l'émergence du féminin sacré, etc., qui est quelque chose de très important et je pense de fondamental pour notre planète, parce que sans ça on va finir par tout en fait éradiquer, voilà. Mais le père, traditionnellement. Absolument, oui. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, quoi. Et le père, Maya, en fait, je le vois un petit peu comme ce qu'on appelle les esprits tutélaires dans le chamanisme, c'est-à-dire que certains animaux en particulier ont une force, qu'on va dire masculine, quoi, et ils peuvent aussi aider les chamans. Alors, comme l'esprit de la forêt, ça va être l'esprit plutôt maternel, mais il y a certains esprits d'animaux qui vont être plutôt des esprits qui vont apporter la force masculine, quoi. Donc, il y a vraiment dans la nature, il y a toutes ces polarités qui sont d'une certaine manière présentes et en harmonie. Et en fait, il faut simplement les redécouvrir, les faire vivre ensemble en nous-mêmes, quoi.
Ouais. J'ai compris. On attend votre prochain livre, Laurent Gly, Père, aux éditions Mama.
Alors,
toujours.
Ce ne sera pas le titre.
Ce ne sera pas les éditions Papa cette fois-ci. Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler,
avec
nous
plaisir.
Expliquer. Ce soir, je rappelle le titre du livre, Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne, donc aux éditions Mama, et vous-même, fondateur de l'Outre-Monde à La Chaux-de-Fonds, chaman et praticien bouddhiste. On va se quitter en dansant avec Toro Mata, Celia Cruz et Johnny Pacheco, car la musique, c'est aussi la joie. Merci.
Merci.
Voilà, ça c'est vraiment tout à fait latino. Toro Mata par Celia Cruz, la grande Celia Cruz et Johnny Pacheco. C'était un duo également. Merci à Nathalie Schoenberg qui nous programme ses musiques. Merci à Mathias Brunimann qui était ici à la technique et Alexandre Lemierre à Paris. Très belle soirée à vous sur la première. Merci de nous écouter. Il est 21h.